France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On a reçu dernièrement sur les réseaux sociaux un message qui nous a mis du baume au cœur et qui n'est pas sans lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous le lis exceptionnellement parce qu'il arrive parfois, enfin souvent, qu'on se demande à quoi ça sert tout ça. Enfin, on se pose des questions. On doute, normal. Donc cette auditrice écrivait « Après 10 ans de violence conjugale et sur mes enfants, j'ai réussi cet été à me libérer, poser une main courante, partir. Pendant ce parcours, certains de vos podcasts ont été un vrai soutien. Ça a compté énormément pour moi. Merci pour votre travail et votre engagement. » Fort de ces encouragements, et merci à vous pour vos messages et commentaires, même négatifs, on continue donc aujourd'hui à creuser ce sillon. On le sait, ce qui empêche souvent les femmes victimes de violences conjugales de quitter leur foyer, c'est la précarité et l'isolement. Alors, des hommes et des femmes qui l'ont bien compris s'organisent autour d'associations pour les mettre à l'abri et leur trouver un logement. Sarah et ses deux petites filles ont pu être hébergées grâce à l'action d'une association de Grigny, et Aurélie, elle, a hébergé chez elle une femme et sa fille le temps qu'elle puisse se reconstruire et chercher un nouveau toit. On écoute leur récit tout de suite par Émilie Chaudet et on vous met des liens sur la page des Pieds sur Terre.
Je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans et j'ai deux petites filles qui ont 2 ans et demi et 9 mois. J'ai rencontré mon ex-mari dans une rencontre avec des amis. À notre toute première rencontre, j'étais en première année de ma licence en psychologie et de fil en aiguille, on s'est attachés l'un à l'autre. Et de là, quelques temps après, il a fait sa demande de mariage, à peu près un an après. Et lors de notre mariage, j'avais 22 ans. C'était quelqu'un de très attentionné, de généreux, il faisait souvent des cadeaux. Quelqu'un de très gentil, ça se passait bien. Le mari idéal, quoi. On s'est très bien entendu dès le début, on rigolait beaucoup, on était vraiment sur la même longueur d'onde. On était très complices, vraiment ça se passait très bien. Mais un jour, on s'est disputé et il m'a mis une gifle. C'était la première fois où il a levé la main, j'étais choquée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel changement de comportement. Et j'étais tellement choquée que, sur le coup, j'ai pas trop su quoi faire. Et je me suis dit, mais c'est pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais pas trop à y croire. Et lui, pareil, en fait. C'est pas du tout dans ses habitudes, c'est pas du tout quelqu'un de violent. Donc j'ai pardonné. Et je pense que c'est ça qui a été la plus grosse erreur. Et il m'a demandé pardon. Je voyais la culpabilité en lui, sur le coup. Il essayait de se rattraper, il était gentil, il essayait vraiment de se rattraper, etc. Et du coup, je me suis dit, ah bah voilà, j'avais raison de rester, etc. Mais ça a duré quelques temps, jusqu'à ce qu'une nouvelle dispute éclate et qu'il le refasse une deuxième fois. Il y avait un intervalle de un an et demi entre les deux premières fois. Et après ça, ça se reproduisait assez souvent. Dans l'après-coup, il me redemandait pardon et il rechangeait et devenait tellement gentil que je me disais, mais je peux pas lui en vouloir en fait. Et après, c'est devenu un engrenage chaque semaine ou tous les 10 jours, comme ça, c'était très récurrent. À chaque dispute, ça partait. Et c'était parfois des gifles, parfois il mettait des coups dans le ventre ou ça peut être des étranglements. Un jour, ça s'est passé devant ma fille qui a 2 ans et demi. Ce jour-là, on s'est disputé. Et d'habitude, il faisait en sorte que les enfants ne soient pas dans les parages ou dans la même pièce. Et là, ce jour-là, c'est parti. En fait, il m'a tapé alors que ma fille était juste à côté. Et elle a vu, elle a commencé à pleurer, elle m'a pris dans les bras. Et elle a eu tellement peur. Le soir, elle en faisait des cauchemars, elle se réveillait en pleurs, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas lui infliger ça. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu accepter ça toutes ces années? Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça a duré 6-7 ans. J'ai commencé à réfléchir à plusieurs possibilités. Je me suis dit, est-ce que j'appelle la police? Enfin, je savais pas trop comment faire. J'en ai parlé à une amie et on a commencé à réfléchir. On a dit oui, mais si on porte plainte, en fait, j'avais peur des représailles. Du coup, j'ai pas voulu porter plainte. Elle m'a dit qu'il y a des numéros pour les femmes. Mais j'arrivais pas à accepter de me dire que je faisais partie de ces femmes-là, alors que clairement c'était le cas. Et vraiment, 2-3 jours après, elle m'a rappelé, elle m'a parlé de l'association Greenywood. Je sais qu'ils faisaient des petites choses pour les jeunes, etc. Donc je les ai appelés, ils m'ont demandé rapidement la situation et je leur ai dit qu'il fallait que je parte et que j'avais vraiment peur qu'il y ait des représailles et que, en fait, j'avais peur de partir en sa présence. Du coup, je leur ai dit qu'il allait rentrer, parce qu'il travaillait du soir, enfin, il rentrait aux alentours de minuit. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je prépare mes affaires et qu'une voiture allait venir me chercher. Sur le coup, j'étais vraiment pas rassurée, mais je me suis dit que ça sera toujours mieux que ce qui m'attend ici et que si quelqu'un me propose de l'aide et que c'est un projet avec une association et tout, ils ont vraiment su me rassurer. Ils m'ont dit « oui, vous inquiétez pas, on vous prend en charge, il y aura pas de problème, etc. » Ils m'ont expliqué qu'une voiture allait venir, qu'il y avait un appartement dans lequel je serais relogée et que j'aurais, parce que je leur ai dit que j'avais pas beaucoup d'argent, ils m'ont dit que le loyer serait de seulement 300 €. J'ai préparé les affaires, j'ai préparé les enfants, j'ai pris une grande valise et un petit sac parce que je pouvais pas trop me charger. Et moi-même, j'étais perdue. Moi-même, je comprenais pas ce que je faisais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? On prend l'essentiel, quoi. J'ai préparé les affaires, j'ai préparé les enfants. J'ai expliqué à ma plus grande fille qu'on allait partir, qu'on n'allait plus trop voir son papa parce qu'elle, elle y était très attachée. Et qu'il fallait qu'elle soit forte et qu'elle reste courageuse. J'ai pris quelques jouets auxquels elles sont vraiment attachées, leurs doudous. Et c'est tout. Quand je suis descendue, j'avais peur surtout du regard des gens, des voisins, etc. Parce que je pouvais croiser quelqu'un que je connaissais. Mais heureusement que ça n'était pas le cas. Ça a été l'avantage de l'horaire que j'ai choisi, qui était le soir. Et du coup, la voiture m'attendait juste en bas de l'immeuble. J'ai mis les affaires, j'ai pris mes enfants, je les ai mis dedans et on est parti. C'était la nuit. Je connaissais pas la personne qui était au volant. Je connaissais pas la destination. Mais je savais que ça serait toujours mieux que ce que j'avais à la maison. On a roulé à peu près une demi-heure. Et pour moi, c'était rassurant parce que ça voulait dire que je m'éloigne vraiment de là où j'étais. Et qu'il y avait de moins en moins de chances qu'ils puissent me retrouver aussi loin. Du coup, c'était quelque chose de rassurant pour moi, quoi. Quand on est arrivé sur place, il y avait une autre personne qui était sur place. Je pense que c'était quelqu'un qui travaille là-bas, à la résidence. Et du coup, c'est lui qui nous a ouvert la porte. Le conducteur de la voiture a pris les deux valises. J'ai pris mes enfants, on est rentrés dans l'appartement. Ils m'ont fait visiter. Il y avait deux chambres, un salon, une cuisine, tout était équipé. C'était un appartement très agréable. J'avais apporté quelques jouets et ils avaient posé quelques jouets aussi. Et mes enfants, elles ont commencé à jouer. Et ça m'a beaucoup rassurée de voir en fait qu'elles étaient contentes. Enfin, contentes, c'est un grand mot, qu'elles arrivaient à s'y faire. Ça faisait déjà plusieurs nuits que je dormais pas puisque j'avais peur de la suite. J'avais aucune vision sur notre futur, comment est-ce que j'allais trouver un appartement, parce que là c'était provisoire. Sur le coup, ça m'a beaucoup aidée à passer le cap et à me sortir de la situation. Ils me disaient que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais les appeler, parce que sur le coup, j'avais pas de voiture. Et que c'est un endroit un peu isolé, du coup, les magasins, etc., c'était un peu loin, donc je pouvais les appeler et leur dire oui, il me fallait quelque chose et ils me l'apportaient. Il me demandait comment est-ce que ça avançait, si je commençais à trouver un appartement ou pas, si je voulais trouver un travail ou pas, est-ce que j'avais besoin d'aide pour qu'il m'accompagne et faire quelques démarches, etc. J'essaie de maintenir certains rituels qu'on avait à la maison, j'essaie de leur refaire. Par exemple, on avait des horaires pour prendre un bain et ensuite elles prenaient le repas. Et après ça, je leur lisais un petit livre, on faisait un petit jeu calme avant de dormir. Et après, le soir pour dormir, je leur lisais un livre, etc. On avait un rituel à nous. J'essayais de le reproduire, mais franchement, on était perdus. Il y a plein de choses qui ont été chamboulées. C'était, on va dire, comme si je reconstruisais une nouvelle vie, en fait. Et du coup, on se sent un peu perdu. Je faisais les choses sans trop réfléchir. J'étais vraiment perdue. C'était tout nouveau. On dirait que je réapprenais chaque chose tellement que c'était... Par exemple, je ne savais pas quoi leur faire manger. C'est quelque chose de tout bête, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Enfin, j'étais perdue. Je me suis dit, mais comment je fais? Et après, du coup, j'ai repris la casserole et j'ai mis ce jour-là, je pense, le double du temps habituel à leur faire à manger parce que je comprenais pas. J'avais l'impression d'avoir perdu mes gestes tellement que voilà. Mais après, je pense que c'est le choc et plein de choses. Mais voilà, c'est des petites choses qui faisaient que c'était compliqué sur le coup. J'en avais pas trop à parler à qui que ce soit, du coup, je me sentais très seule. Mais je me disais que c'était pour le bien de mes enfants. Enfin, je pensais à tout ce qui était de bon à venir. Mais oui, on se sent seul, on a peur. Je suis restée dans cet appartement un mois. C'est un des endroits que j'ai eu le plus de mal à quitter. Je m'y suis sentie tellement bien. Ça m'a permis vraiment de prendre du recul et de réaliser ce que je venais de faire, ce qui s'était passé, etc. Parce que quand on est dedans, on s'en rend pas trop compte. C'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux sur toutes ces années de souffrance et de tristesse. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai accepté? J'aurais dû partir depuis longtemps. Et voilà, mais je me suis dit, bon, je l'ai fait à temps pour les enfants et c'était la meilleure décision, je pense, de ma vie. En fait, c'est un endroit apaisé, on n'entend pas beaucoup de bruit et c'est très apaisant et ça permet vraiment, ça aide à la réflexion et à souffler un bon coup. C'est l'endroit parfait pour ce genre de situation, c'est le ressenti que j'ai eu. Ma famille s'est inquiétée. Du coup, après, j'ai été dans l'obligation de leur expliquer un peu ce que je voulais me séparer du père de mes enfants, etc. Mais je ne suis pas trop rentrée dans les détails, surtout pour ne pas inquiéter mes parents. Mais après, ma sœur, elle est venue, elle m'a dit que je pouvais lui parler. Je lui ai raconté un peu ce qui s'était passé. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, on va trouver un appartement à deux et je serai là pour toi. Et du coup, là, actuellement, j'habite en colocation avec elle. Le premier objectif que j'avais, c'était de trouver un appartement pour qu'on puisse avoir notre cocon. Et le travail, je préférais attendre un peu parce que je me sentais vraiment pas apte à travailler. Avant, bah, j'étais en congé maternité et sinon, j'étais enseignante. Et du coup, je comptais reprendre, mais pas tout de suite, je me sens pas apte. Mais j'attends de me reconstruire un peu et dans quelques temps, je trouverai un petit travail pour m'aider financièrement, etc. Enfin, là, ma fille, elle est petite. Je me suis dit, pour l'année d'après, donc en septembre 2026, j'aimerais reprendre le travail. Mais en attendant, je commence un peu à regarder les annonces, etc. Mais je compte pas reprendre tout de suite par rapport à mes enfants. J'ai peur de les laisser et tout. Du coup, j'attends de sentir qu'elles sont vraiment prêtes de trouver un moyen de garde. Et à ce moment-là, je reprendrai le travail. Aujourd'hui, la procédure de divorce est en cours. Il a demandé à nous revoir, à revoir ses enfants. Il a dit que c'était son droit, etc. Mais j'ai refusé. Mais par contre, je n'ai pas porté plainte contre lui. Parce que je ne voulais pas créer un environnement hostile. En sachant que j'espère que plus tard, mes enfants pourront revoir leur père. Et je veux que ça se passe bien pour elle, en fait. Je veux juste qu'elle puisse envisager d'avoir une vie normale et que plus tard, elles puissent revoir leur père quand elles le souhaitent. Petit à petit, on commence vraiment à s'en sortir. Ma vie d'aujourd'hui, c'est de l'or comparé à ce que j'ai vécu. C'est vraiment une reconstruction. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très fière du parcours que j'ai parce que j'ai réussi à m'en sortir alors que tout était contre nous, on va dire. Et je suis très contente d'avoir fait ça pour mes enfants et c'est la meilleure décision que j'ai prise.
Je m'appelle Aurélie Thédot, j'ai 47 ans. On est quatre, donc avec mon mari et nos deux enfants, le grand qui a 16 ans et le deuxième garçon qui a 8 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que j'accueille des femmes chez moi, des femmes qui ont besoin d'un abri à la suite de violences familiales ou de violences intrafamiliales ou avec leurs compagnons. J'ai un jour découvert dans un magazine cette association. Donc c'est un abri qui sauve des vies, qui permet justement d'offrir un toit pendant un temps donné, celui qu'on souhaite, celui qu'on peut, à des femmes qui ont subi des violences. C'est le moment où on peut les prendre en charge, où elles peuvent retrouver un logement, etc., et être mises en sécurité. Et je trouvais que ça correspondait bien à mes possibilités, puisqu'on a une maison et qu'on a une chambre qui est disponible, qui nous sert de bureau, mais qui a un lit d'amis. Donc on peut potentiellement accueillir deux personnes, si ces personnes peuvent dormir dans le même lit, bien sûr. Il se trouve que le jour où on a remis le sujet sur la table en famille, l'association faisait une visio, elle fait ça régulièrement, où elle forme des abritants, abritantes, c'est le nom qui nous est donné. Moi, je me suis dit, je la fais. Donc, on nous explique la nécessité de cet accueil-là. Et ensuite, on nous explique aussi notre positionnement. L'importance de se dire que c'est à nous d'établir avec ces personnes une cohabitation qui nous convient, que ce soit pour l'occupation des espaces communs, que ce soit aussi la relation qu'on va nouer, qui n'est pas obligée d'être formidable. Et on n'est pas obligé de passer des moments ensemble, de manger ensemble, de discuter. Et de laisser aussi un espace privé à ces femmes-là. Et on a aussi un numéro qu'on peut contacter si vraiment on est en urgence. Et donc je me suis inscrite parce que j'ai trouvé ça super. On a énormément parlé de ça avec mon fils le plus jeune, mais le second aussi. On a beaucoup parlé de l'importance qu'on mettait, nous, en tant qu'adultes, à aujourd'hui lutter contre les violences. Moi, j'ai deux fils, donc il faut aussi expliquer pourquoi d'un coup les hommes créent ces violences-là et que les femmes les subissent. Donc c'était important qu'ils saisissent dans quel contexte et ne pas cacher les choses, ne pas dire on accueille une amie, faire comme si de rien n'était. Et à la fois leur expliquer que c'était nécessaire qu'elles aient leur espace et qu'on n'était pas intrusif, quoi, qu'on ne posait pas de questions si elles ne souhaitaient pas parler. Voilà, la chambre, là, le bureau devenait leur espace. Donc on n'ouvrait pas les portes, on était le plus accueillant possible et le plus discret possible aussi. Avec mon fils le plus jeune, j'ai toujours eu à cœur de lui expliquer qu'il était un garçon, de surcroît un garçon blanc, plutôt d'une famille aisée. Et donc aujourd'hui, il est un peu en haut de la pyramide, dans le système qui est celui dans lequel on vit, et de porter attention et regard à ce qui l'entoure et à comment il pouvait être aussi un homme d'aujourd'hui, et un homme différent à l'écoute de tout ça. Notre premier accueil s'est fait donc avec une femme et sa fille qui avaient entre 18 et 19 ans. Donc on a fait de la place pour mettre leurs valises, leurs affaires. On a fait des petits gestes tout bêtes, mes enfants ont préparé de l'eau, des petits gâteaux, des choses qui sont à la fois pas trop intrusifs et à la fois agréables quand on arrive, d'avoir un lit qui est fait, des draps évidemment propres et une chambre un peu agréable à vivre. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer, de comment est-ce qu'on allait pouvoir se rencontrer. J'ai saisi, avec notre échange téléphonique, qu'elle avait besoin d'un lieu pour sa voiture et qu'elle souhaitait garer sa voiture aux abords de chez nous. Alors, il faut savoir que nous, on est en banlieue parisienne et qu'on ne peut pas laisser nos voitures comme ça si on n'est pas résident de la ville dans laquelle moi j'habite. Et surtout, j'ai compris, parce qu'elle ne me l'a pas dit, qu'elle avait dans sa voiture toute sa vie. Et donc, je ne me voyais pas lui laisser la voiture à l'extérieur. Donc, on a la chance d'avoir nos beaux-parents qui ont une maison pas loin et une possibilité de garer un véhicule supplémentaire. Donc, je lui ai dit, écoutez, à ce moment-là, on se retrouve directement à cette adresse et vous pourrez laisser votre véhicule. Vous pourrez même laisser des affaires, s'il faut, dans un garage. Comme ça, au moins, on est sûr que votre véhicule ne sera pas vandalisé. Et j'ai accueilli, je dirais, une femme à la fois extrêmement forte, que j'ai senti ça tout de suite, mais à la fois extrêmement apeurée, parce que c'est très compliqué, quoi. On arrive chez des inconnus, et une fois qu'on a fait de façon pratique, je dirais, les choses, garer la voiture, sortir les affaires, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça, justement, on passe ce stade-là d'inconnu ? J'ai pas posé de questions sur sa situation, mais je lui ai juste expliqué qui on était et comment la maison allait être remplie une heure après avec mes deux enfants et mon mari qui revenait plus tard pour qu'elle se sente à l'aise. Et moi, je lui ai proposé de s'installer dans la chambre, de se poser tranquillement et de revenir quand elle voulait dans la salle à manger. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un bureau à domicile, donc je lui ai dit, voilà, je suis au sous-sol, je suis dans mon bureau et vous venez quand vous voulez. Et si vous voulez, on boit un thé, un café, comme vous voulez, quoi.
Une
une fois que cette femme s'est installée, sa fille est arrivée en fin de journée après son travail. Déjà dans un premier temps, elles n'ont pas dîné avec nous le premier soir, mais je trouvais que c'était bien aussi qu'elles puissent prendre leur marque et qu'on leur laisse la salle à manger et la cuisine tranquillement pour cuisiner. Je savais qu'elle était adulte, sa fille, donc je m'inquiétais qu'elles dorment toutes les deux dans le même lit, parce qu'évidemment, quand on a 18 ou 19 ans, on n'a pas forcément envie de dormir avec sa maman. Mais elle m'a dit qu'au contraire, ce serait rassurant pour sa fille, et j'ai assez vite saisi que sa fille avait aussi subi des violences, était même la protagoniste principale de ces violences reçues. Et assez spontanément, effectivement, cette femme qu'on a accueillie a voulu tout de suite nouer contact. Elle s'est sentie tout de suite très bien dans la maison. Elle a beaucoup cuisiné. On ne s'est pas posé la question de manger ensemble. Voilà, on s'est offert spontanément des repas en disant « moi, je fais ça, tu fais ça ». On s'est tutoyé assez rapidement. Enfin, on était vraiment comme des colocataires. Elle m'a peu parlé de cet ex-mari. J'ai saisi qu'ils avaient vécu quand même beaucoup d'années où tout se passait très bien. Elle a des enfants plus âgés qui n'ont jamais subi de violence. Elle-même n'avait jamais subi de violence de sa part jusqu'à présent. Son mari avait été un père aimant. Elles étaient contextualisées, ces violences, à la perte d'un emploi. Et elle a eu envie d'en parler. Plusieurs jours après son arrivée, je dirais plus d'une semaine et demie. Et puis il y a eu un jour où elle n'a pas travaillé, où elle a eu un moment où elle avait une personne qu'elle accompagne. Elle accompagne des personnes âgées qu'elle aide à domicile, qui n'avaient pas eu besoin d'elle, où voilà, son contrat a été décalé. On s'est retrouvées toutes les deux autour de la préparation d'un repas. On a pu un peu échanger d'autres choses. Voilà, on a parlé de sa famille, elle a tenu à me parler de ses parents, de ses frères et sœurs. Elle a voulu d'abord me parler de ça, du fait qu'elle n'était pas à la rue, qu'elle était très entourée, mais que ses parents et ses frères et sœurs habitant loin de Paris, là où elle travaillait, elle s'était tournée vers cette association. Et elle avait envie de dire que non seulement elle ne s'était pas laissée faire, qu'elle était partie au premier coup, et qu'en plus, ça faisait pas des années qu'elle vivait ça. Et j'ai senti aussi qu'elle avait envie de dissiper l'idée que peut-être son appartenance, sa culture ou la vie qu'elle avait menée n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait subi. Donc je trouvais que c'était assez beau parce qu'on n'est pas rentré dans des détails très intimes, mais elle avait envie de partager ça avec moi. Du fait qu'elle avait tout de suite été à la police et qu'elle avait tout de suite fait des photos et qu'elle avait tout de suite eu la présence d'esprit de documenter ce qui leur arrivait pour ne pas se retrouver pas crue. Je crois qu'elle avait besoin d'être crue, comme toutes les femmes qui subissent des violences. Ce qui était chouette en les accueillant toutes les deux, c'est que sa fille était une adulte, mais restait encore une très jeune adulte, adorable. Donc mon fils le plus jeune, c'est devenu vraiment son ami, sa sœur. Il a même fallu le retenir parce qu'il était très, à un moment donné, presque intrusif. Il voulait tout le temps jouer avec elle, tout le temps être avec elle. Mais elle offrait aussi cet espace-là. Elle était toujours ravie de me dire « mais si tu veux aller faire des cours, si tu as besoin, moi je suis là ». Donc elle avait des jours où elle travaillait pas. Donc elle était là toute la journée dans la maison. Voilà, si tu veux, mais je le garde. Et c'était chouette parce qu'il y avait une vraie convivialité. Et spontanément, elles sont venues vivre notre vie de famille. Et voilà, je me souviens d'une fois où on a joué à des jeux de société avec le plus jeune, où spontanément, elles ont dit toutes les deux oui. Mon fils aîné a fêté son anniversaire pendant qu'elles étaient là. Donc on l'a évoqué et elles sont revenues avec un petit cadeau, avec deux petits mots écrits sur un papier vraiment charmant. Mon fils aîné a été très touché qu'elles y aient pensé. Dans ces moments notamment de week-end où elles ont pu rester avec nous, certaines fois elles ont été voir des amis, leur famille lointaine, mais à des moments elles sont restées avec nous, on a partagé vraiment des vrais moments amicaux, familiaux, ensemble. On avait décidé d'une période d'une quinzaine de jours à peu près de présence par rapport à nos emplois du temps aussi et nos possibilités d'accueil. Et puis, il y avait une grosse angoisse, celle du logement social. Quotidiennement, elles parlaient avec leur assistante sociale de « est-ce que vous nous avez trouvé un logement ?» Donc, on est aussi rentré dans cette inquiétude avec elles de se dire quand va-t-il arriver. Et donc, on a fait un prolongement du contrat en disant qu'on pouvait encore les accueillir quelques jours. Et puis, on a dit « mais là, on va s'arrêter tel jour. Donc, tel jour, il faudra trouver quelqu'un d'autre. » Donc, elles ont été mises en contact assez rapidement avec une femme seule, je crois, cette fois-ci, et qui avait des chambres pour pouvoir les accueillir. On a rechargé la voiture, la même voiture qu'on avait déchargée à l'aller. Ça a été un moment très chouette, hein, vraiment d'embrassade, d'amis, de connaissances. Je me suis sentie utile, mais je savais aussi que ces liens étaient éphémères. Mon fils le plus jeune, il a longtemps demandé où elles étaient, ce qu'elles faisaient, qu'est-ce que tu penses qu'elles sont en train de faire, est-ce que l'autre maison ça va être bien, parce que peut-être que l'autre dame elle est pas gentille. Il s'est posé longtemps la question de ce qu'elles faisaient, parce qu'il avait saisi tout ce qu'elles avaient vécu, et donc pour lui c'était important qu'elles soient bien, et il s'est posé des questions sur la nouvelle chambre. Donc voilà. Nous, on a reçu assez rapidement, dans les mois qui ont suivi, un message charmant de leur part pour nous dire qu'elles avaient enfin trouvé un logement social. Et mon fils, le plus jeune, lui, avait très envie d'aller visiter cet appartement comme si c'était nos amis ou notre famille. Et quand on a reçu la vidéo, il était aux anges de voir l'appartement. Et il a souvent demandé « quand est-ce qu'on va y aller ?» Alors je lui dis « sans doute jamais ». Et c'est très bien comme ça, parce qu'évidemment, avec grande gentillesse, ces deux femmes nous ont invités chez elles, même si je savais pertinemment que nous n'irions pas. Et c'était un geste très beau, mais c'est un temps et une histoire qui ne nous appartient pas forcément. Évidemment, on avait un petit peu de tristesse à l'idée de les voir partir, mais en même temps, on a été à un endroit douloureux, on a été à un endroit compliqué, donc on n'est qu'une passerelle. Je crois que les enfants l'ont bien saisi, ça. Que c'est éphémère et que c'est des relations humaines et c'est chouette un temps, on se remplit de ça et puis ensuite il faut au contraire qu'on n'ait pas de nouvelles parce que ça veut dire que tout va bien. Donc voilà, et pour elle c'est le début d'une nouvelle vie. C'était Des femmes à l'abri, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Sarah, Sidi Omar Dawson et Mounir Nordine de l'association Greenwood, à Aurélie et à Charline Péculier de l'association Un abri qui sauve des vies. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel.